Allô, c'est Sylvain dans ta radio. Le Prix du Gros est fier de commanditer et surtout de féliciter Michel Villeneuve pour l'ensemble de sa carrière en Formule 1.
Catherine Le Matin. Voici Michel Villeneuve. Que la mort ici se lève.
À 7h40, on parle de sport avec Michel Villeneuve. Salut Michel.
Salut Marc-André, tu sais comme moi, toi t'es loin de ça encore, mais lorsque tu passes la soixantaine,
oui,
tes idoles de jeunesse disparaissent un par un,
ouais,
pour aller rejoindre un monde soi-disant meilleur. Et ce matin, lorsque je me suis levé, j'ai appris le décès de Will McCovey, 80 ans, l'ancienne grande vedette des Giants de San Francisco, lui qui formait avec Willie Mays le meilleur one-two punch du baseball dans ces années-là. C'était la grande confrontation avec le duo Mickey Mantle et Roger Maris chez les Yankees. Mais je veux te rappeler la façon dont j'ai rencontré Willie McCovey.
Ah, tu l'as rencontré en plus?
Ah, je l'ai rencontré en personne.
Wow.
Et c'est une rencontre fortuite. C'était ma première année comme descripteur des matchs des Nordiques et on se retrouve dans l'Association mondiale dans la première semaine du mois d'avril, juste à la fin du calendrier régulier à Cincinnati pour y affronter les défunts Stingers,
okay,
avec lesquels s'est aligné Marc Messier. Cela dit, le matin, parce qu'on était, lorsqu'on partait dans ce temps-là dans l'Association mondiale et au début des années 80, évidemment, on ne voyageait pas en vol nolisé, on voyageait commercial et lorsqu'on partait, c'était pour une semaine et on pouvait arriver dans une ville 2 jours précédant la journée du match. Ce matin-là, 8h, je m'installe pour déjeuner à l'hôtel à Cincinnati, une table à deux, puis il y a une autre table à deux juste à côté de moi. Il y a un grand noir qui arrive. CC4. Je le connais, il s'assoit. J'ai dit, c'est Willie McCovey. Prenant mon courage à deux mains, j'étais un tout jeune journaliste.
Ouais.
Je m'introduis, I like to introduce myself.
Oui.
Je me présente à Willie McCovey d'une gentillesse. On commence à jaser, puis on était deux petites tables à côté, tu sais, d'une table de déjeuner, là, tu peux te parler, tu étais à un pied et demi d'écart.
Ouais.
On jasait, fait que lui, je lui explique ce que je fais, puis pourquoi je suis à Cincinnati. Il dit, vas-tu venir à nos matchs? J'ai dit, vous savez, c'était la journée d'ouverture cet après-midi-là. J'ai dit, évidemment, cet après-midi, tous les billets sont vendus, puis je ne pensais pas aller me présenter à l'organisation des Reds de Cincinnati pour avoir un billet ou pour avoir un laissez-passer sur la presse. Il dit, écoute, il dit, je vais vous organiser ça, vous voulez venir, viens demain lors du deuxième match de la série, il y a toujours moins de monde. Fait que le lendemain après-midi, je me suis retrouvé au match des Reds de Cincinnati contre les Giants, et Willie McCovey avait d'ailleurs frappé un coup de circuit dans ce match-là.
Fait que
Je peux jamais oublier ça. Écoute, un des grands d'histoire, puis un gars gentil, tu y aurais pu sacrer de moi puis pas m'en occuper, tu sais, un jeune blanc-bec comme ça. Sauf que, il a dit, je vais vous inviter, puis on est à là. Écoute, c'est pour ça que j'ai toujours gardé un souvenir incroyable de Willie McCovey, mais de le voir partir aujourd'hui, ça me fait un petit quelque chose.
Bien, surtout avec une rencontre comme celle-là, effectivement, c'est pas le genre de gars que tu vas oublier.
Oh, puis lui, il a frappé loin, je peux te dire ça. Puis écoute, lorsqu'il a pris sa retraite en 1980, c'était le frappeur gaucher qui totalisait le plus de circuits dans la Ligue nationale. C'est Barry Bonds par la suite avec les mêmes Giants. D'ailleurs, c'était son nom qui a pu dépasser sa marque. Puis il est deuxième de tous les temps pour le nombre de grands chelems frappés en carrière derrière Lou Gehrig. Ça te donne une idée. Ce sont quand même des chiffres tout à fait exceptionnels.
Chez le Canadien maintenant, est-ce que quelqu'un regrette l'échange d'Omi Galchenyuk?
Non. Écoute, ce qu'a dit Claude Julien hier, il dit, c'est pas une flèche qu'on a lancée à Alex Galchenyuk, puis parce que c'est un marqueur naturel, puis il nous a donné de gros buts. Mais il dit, parfois, tu fais des échanges qui sont bons pour les deux clubs. Et dans le cas du Canadien, on pense qu'on a fait une bonne transaction. Domi amène ce que le Canadien recherchait. On s'attendait peut-être pas à ce qu'il devienne le joueur de centre numéro un, mais il l'est devenu. C'est celle Bonnie, alors que Galchenyuk, lui, vient à peine de commencer sa saison avec les Coyotes de Phoenix, où il a marqué l'autre soir. Mais obtenir Domi dans des conditions où il devient le premier joueur de centre de ton équipe, normalement, Dans une très bonne équipe de la Ligue nationale, Domi ne serait pas le joueur de centre numéro un. Mais dans la situation dans laquelle se retrouvait le Canadien, il se retrouve au poste de numéro un. C'est lui qui est le joueur de centre le plus utilisé. Il a souvent la rondelle. Il est impliqué dans les deux sens de la patinoire. Il amène de l'enthousiasme. Il amène du leadership. La seule affaire qu'il a corrigé, c'est de garder son sang-froid.
Ah, la discipline.
Lorsque ça chauffe, on en parlait pas plus tard qu'hier matin. Et là, ce soir, avec l'absence de Paul Byron, il se peut que Charles Hudon se retrouve aux côtés de Max Domi et de Jonathan Drouin. Et si je te parle de ça, parce que je veux te faire un parallèle avec la situation chez l'Impact de Montréal hier, alors qu'on a rencontré les joueurs avant leur départ, et Anthony Jackson Hamel, un Québécois, un petit gars de Charlebourg,
oui,
en banlieue de Québec, qui a dit peut-être avoir été traité injustement par l'équipe. Moi, je pense que oui. Il avait connu une séquence exceptionnelle l'année dernière.
Ben oui, il marquait des buts tellement importants.
Puis il était même pas partant, il rentrait dans le match, faisait la différence. Il pensait cette année avoir du temps de jeu. Oups, blessure au début du camp d'entraînement. Il est pas dans... Rémi Garde n'aime pas tout à fait le genre de jeu qu'il pratique. On le pointe du doigt en disant qu'il est large comme un âne durant les entraînements. Oh, Pelay, fait que finalement, il n'a quasiment pas joué cette saison. On l'a laissé d'un gradin dans 12 des 14 derniers matchs de la saison. Puis il a fait un parallèle, puis je vais te citer.
OK.
Je trouve ça décevant, c'est surtout pour les femmes et les amateurs d'ici. Il y a des bons jeunes, mais des fois, c'est dur pour nous de faire une place. On travaille fort. Je peux dire que tous les gars ici, des Québécois, on en parle souvent. On a souvent l'impression que c'est un peu plus dur pour nous de faire notre place. Et même quand tu arrives à te faire ta place et à prouver ce que tu peux faire, on dirait que c'est pas encore assez. Des fois, c'est dur mentalement de toujours arriver avec la bonne mentalité, jour après jour, à l'entraînement. Des fois, c'est pas facile. Et je regarde sa situation, puis je me dis, c'est-tu la même situation que Charles Hudon?
Ben, ça
Charles
ressemble.
Hudon arrive l'année passée. C'était un des joueurs avec Brendan Gallagher qui, dans une saison de misère, nous arrachait des sourires par sa combativité, son agressivité, lâchait jamais, obtenait des chances de marquer, a inscrit des points au tableau. Tu te dis, tabarouette, il était impressionnant, on va reconnaître ce qu'il a fait l'année passée lorsque le camp d'entraînement va arriver. Puis même, tabarouette, au dernier match en concours, je m'en rappelle avec Catherine, on en parlait, il y avait des doutes sur Charles Hudon. Mais j'ai dit, voyons donc, tabarouette, je le vois travailler avec la même intensité que je voyais le petit gars l'année passée à ses débuts dans la Ligue nationale, puis il n'y a rien d'acquis pour lui. C'est vrai que c'est pas facile, et encore cette année, on l'a laissé d'un gradin.
Ben oui.
Confiné sur un quatrième trio alors qu'il aurait mérité, je pense, une chance. Qu'est-ce que Joël Armia a fait plus que lui?
Mais c'est exactement l'exemple que j'allais te citer. À la place, on préfère Joël Armia et son piano, là.
C'est ça. Bon, on est allé chercher.
Ouais.
Puis il faut toujours bien paraître lorsqu'on va chercher un gars d'ailleurs, alors qu'un gars qui est développé ici, des fois, c'est toujours compliqué. Alors je me dis, peut-être qu'Anthony Jackson Hamel a raison et que cette situation et que la situation de Charles Hudon ressemble à la sienne. J'espère qu'on va lui donner une vraie chance parce que là, sur le site de TSN, on parlait des joueurs qui étaient susceptibles d'être échangés, qui pourraient se retrouver sur le marché. Et Anthony Hudon, Charles Hudon, se retrouvait sur cette liste-là. Hey, j'ai dit, un moment là, une minute, on peut-tu le regarder, le laisser jouer? C'est vrai qu'il y a plusieurs joueurs qui ont le même... Qui ont la même identité chez le Canadien. Mm-hmm. Des patineurs rapides, pas des gros gars qui doivent travailler fort. Mais de tous ces gars-là, le seul qui se distingue par une présence plus physique que les autres, c'est Hudon. Puis c'est un maudit fatiguant quand il est sur la patinoire contre l'adversaire. Tu t'attends pas à te faire frapper, il va te frapper, puis tout ça. Fait, j'aimerais ça, peut-être, qu'on se regarde dans le miroir, puis qu'on dise, on est un petit gars d'ici, puis après ça, on se demande pourquoi les Québécois veulent pas jouer à Montréal. On en a un, là, qu'on lui donne une vraie chance. Une vraie chance, c'est pas deux parties, là. Qu'on lui laisse la chance d'évoluer sur un des trois premiers trios. Là, par accident, il va se retrouver sur le premier ou sur le deuxième. Tout dépend de l'utilisation qu'on fait de Dano ou de Domi. mais qu'on l'essaye donc sur une base régulière, qu'on lui donne vraiment la chance. C'est comme Paul Byron qui ne touche jamais à patinoire en avantage numérique.
Ben oui.
Alors qu'il était un des meilleurs marqués.
En score 20-25, puis il n'est pas là.
Moi, je me rappelle, j'avais mon fils le plus jeune qui, à cette époque-là, qui joue au Pee-wee 2A. Et puis, il y a une fois, là, j'étais assez en maudit. C'est un joueur de défense. Et c'est, durant une certaine période, c'était le meilleur joueur de défense offensif de l'équipe. On se retrouve dans un tournoi où on est en demi-finale. Et Patrick est le meilleur joueur de l'équipe ce soir-là. On est en avantage numérique en fin de partie, puis on se retrouve en avantage numérique en supplémentaire. Touche pas à de l'as. Là, le bonhomme, il est dans les estrades, puis il boucane. Hein?
Ouais.
Fait qu'après après le match, j'ai dit, bon, là, c'est assez. Là, je vais toujours aller bien m'informer. Je vais voir le coach. J'ai dit, coudon, peux-tu m'expliquer pourquoi mon gars, c'est le meilleur joueur sur Atlas depuis quelques parties. Ce soir, c'est le meilleur défenseur offensif. Pourquoi tu ne l'as pas utilisé en avantage numérique? Ah, oh, on avait décidé ça avant partie, que ce serait lui, tel, tel, tel. Voyons donc. Vous décidez, avant le match, tu peux commencer, oui, avec des joueurs, mais lorsque le match se déroule, tu dois faire des ajustements, puis tu utilises ceux qui ont des chances de te faire gagner. C'est parce que des fois, on place des étiquettes sur des gars, puis on doit absolument les utiliser dans telle ou telle situation. Oui, moi, je suis prêt même dans le pot. Là. Tu commences, tu dis, c'est Petrie qui est à la pointe en avantage numérique. Mais quand ça fait deux power play qui lancent la rondelle à 40 pieds à côté du but, là,
t'essayes autre chose.
Je vais-tu essayer autre chose, avoir un gars qui va toucher le net et qui va me permettre de gagner? Fait que ça, écoute, je viens de te raconter quelque chose. Il y a sûrement plusieurs parents de jeunes joueurs donc hockey mineur. Ça doit leur rappeler des souvenirs. Mais moi, je me disais, mais voyons donc. Et c'est pour ça que les gens de hockey, des fois, là, ils sont bornés. C'est ça, on a décidé ça avant le match. Mais voyons donc, tabarouette. Ah. Oui, avant partie, tu as une idée. Mais c'est le déroulement du match qui te permet de voir s'il y a un trio, il y a un soir qui marche à la planche. Envoie un avantage numérique, même si on ne le voit pas d'habitude. Ces autres qui sont meilleurs, tu les utilises. C'est pour ça que ces formules-là, que tu as toujours les mêmes en avantage numérique, puis ça ne marche pas, puis on n'apporte pas de changement. Je veux dire, hey, utilise des vrais trios. Si des joueurs qui sont assez forts pour jouer sur la première ligne en avantage numérique, pourquoi tu les envoies sur le banc lorsqu'on a un homme de plus à la patinoire pour le remplacer par un gars qui n'a pas la même chimie habituellement sur le trio? En tout cas.
C'est à voir ce soir, Michel.
C'est une réflexion.
On va se garder les Jeux olympiques pour demain, si tu permets, puisque le temps file.
On va regarder, merci, Michel. On va regarder le Canadien s'il pourrait éviter pour la première fois cette saison deux défaites d'affilée.
C'est intéressant. Salut, à demain.
Salut, bye.
Bye-bye, Michel Villeneuve. 7h40 tous les jours pour le sport.